1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h58, nous sommes le mercredi 6 février 2019 et c'est avec une joie chaque matin renouvelée que je vous accueille en direct avec mes deux complices du petit jour, Céline Dacosta et Eva Rock. Deux journalistes qui n'ont qu'un défaut, elles passent un peu trop de temps sur leur smartphone. À chaque coupure pub, et parfois même durant les chroniques de certains membres de la rédaction qu'on ne citera pas pour ne pas créer de problème.
Merci Thierry Léger.
Non, pas de nom. Mais c'est vrai que c'est agaçant de les voir pianoter à longueur de matinée.
Ah, je me suis fait un compte Twitter, Eva.
J'ai 45 followers.
Mais je vais te suivre.
Moi, je te suis déjà. Je ne sais pas comment me connecter.
Aujourd'hui, pas de ça. Car vous savez quelle est la grande nouvelle aujourd'hui, Eva.
T'as fait des gaufres?
Mais non, j'ai pas fait des gaufres. C'est la journée mondiale sans portable. Alors nous allons tous être à la hauteur du défi, au moins le temps de notre matinale, pas touche au portable, même Eva en cas d'alerte Tinder.
Tout ça est bien grotesque.
Bon mais c'est comme ça. Alors quelles questions avez-vous choisi de poser à nos auditeurs ce matin, sachant que vu que eux non plus n'ont pas le droit de vous répondre depuis leur téléphone, seuls les pigeons voyageurs sont autorisés. Get up, stand up. Quel rapport avec Bob Marley?
Eh ben Bob Marley aurait eu 74 ans aujourd'hui.
C'est pas vrai, oui. Ma bonne dame.
Et alors vous savez ce que c'est la question? Qu'est-ce qui vous rend cool dans la vie?
Quand est-ce qu'on légalise le chichon? Je sais pas.
Oui. Qu'est-ce qui vous rend cool dans la vie? Bon, donner des réponses que je puisse lire à l'antenne, évidemment.
Qu'est-ce qui vous rend cool dans la vie?
Sur Twitter, avec le hashtag Europe 1.
Vous allez avoir pas mal de conneries qui vont arriver.
Ça, c'est déjà arrivé.
Il va falloir que vous fassiez un filtre, à mon avis.
Oui.
On va pas pouvoir tout dire. Céline, de votre côté, dites-nous comment s'annonce le temps aujourd'hui? Est-ce qu'il sera cool?
Il sera cool, le temps, avec du soleil sur l'est et le sud-est encore, évidemment. De la grisaille pour les autres et puis de la pluie, surtout sur les côtes de la Manche.
Merci Céline, vous écoutez. Debout les copains, 2 heures d'information et de gaieté garantie aujourd'hui, sans téléphone portable. Qu'est-ce que c'est, Céline? Coupez-moi ça tout de suite.
J'adore cette
bruit. Mais Eva, comment lui faire comprendre?
En l'insultant et en lui lançant une pomme.
Non, ça va trop loin, nous chamaillons pas non plus. Debout les copains, c'est parti.
Nous sommes le mercredi 6 février, merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil à tous, il est 5h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce mercredi 6 février, c'est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
L'émotion au lendemain du dramatique incendie dans le 16e arrondissement de Paris, au moins 10 morts. Une messe hommage a eu lieu hier soir à l'église du quartier. L'enquête se poursuit. La principale suspecte, une résidente de l'immeuble aux lourds antécédents psychiatriques, est internée. Veto en vue à Bruxelles. La Commission européenne devrait s'opposer aujourd'hui à la fusion franco-allemande Alstom-Siemens. En vue de la création d'un géant européen de la construction ferroviaire, l'Europe craint un affaiblissement de la concurrence. Et puis, appel à l'Unité nationale sur l'immigration, éradication du VIH et rencontre avec Kim Jong-un. Donald Trump a prononcé cette nuit aux États-Unis le traditionnel discours sur l'état de l'Union.
Europe 1.
La femme de 40 ans, fortement suspectée d'être à l'origine de l'incendie meurtrier hier dans le 16e arrondissement de Paris, a été internée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, garde à vue suspendue. Une femme résidente de l'immeuble aux lourds antécédents psychiatriques, internée 5 ans au total et 2 fois par le passé. La justice l'avait considérée pénalement irresponsable pour acte de violence et tentative d'incendie. Des experts doivent déterminer si elle pourra un jour être jugée. Sur place, rue Erlanger, l'émotion est immense. Au moins 10 personnes sont mortes, 32 autres blessées, dont 8 pompiers. Hier soir, à l'église du quartier, c'était le temps du recueillement. Reportage Pierre Herbulot.
Devant l'autel, 10 bougies ont brillé pendant toute la durée de la messe. 10 comme le nombre de victimes pour lesquelles Béatrice a prié pendant près d'une heure. Elle habite l'immeuble voisin de celui qui a brûlé.
Ce sont des cris et des silhouettes de personnes sur les toits que je n'oublierai jamais. On se sent tellement impuissant qu'on se dit « qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est une manière de communier avec eux, avec les victimes, avec leurs familles. Oui, d'être en communion avec tous ces gens qui ont souffert.
Ils se sont indignés toute la nuit.
Le père Olivier a lui rendu un hommage appuyé aux pompiers intervenus pendant la nuit.
Je crois qu'on imagine à peine le combat qu'ils ont mené puisque les circonstances des sauvetages étaient vraiment très difficiles. Ils ont vraiment sauvé un nombre impressionnant de personnes au risque de leur vie. Donc nous avons prié beaucoup pour les pompiers. J'ai beaucoup remercié les officiers et les jeunes qui étaient là. En plus, ils m'ont beaucoup impressionné sur leur façon d'être tout simplement.
Des prières pour les victimes, leurs familles, les sauveteurs, mais aussi pour la femme qui serait à l'origine du feu. Quelle était la détresse de son cœur, s'est demandé le prêtre devant les fidèles.
Reportage Pierre Herbulot pour Europe 1 et cet incendie est le plus meurtrier à Paris depuis près de 14 ans. Une cellule psychologique est mise en place à la mairie du 16e arrondissement.
Europe 1, il est 5h02.
La CGT se félicite de la mobilisation d'hier. Le rouge des syndicalistes et le jaune des gilets. Deux concerts dans plusieurs villes en France. 200 selon la CGT qui estime la mobilisation à 300 000 personnes. Un peu plus de 137 000 selon le ministère de l'Intérieur. La CGT prévoit une nouvelle journée de mobilisation nationale mi-mars. Abstention record hier à la Assemblée nationale lors du vote du projet de loi anti-casseurs. 50 députés de la majorité se sont abstenus. Ils jugent liberticide le texte toutefois adopté à une très large majorité. Le texte sera devant le Sénat le 12 mars.
La fusion Alstom-Siemens pourrait bien dérailler.
L'Union européenne s'apprête à interdire le mariage entre le français et l'allemand. L'idée c'était de créer un mastodonte, une sorte d'Airbus de la construction du rail pour concurrencer le groupe chinois CRRC. Mais aux grandes dames de Berlin et Paris, la Commission européenne devrait dire non à la mi-journée. La raison, la crainte d'un abus de position dominante qui affaiblirait la concurrence et aurait donc une incidence sur le prix des billets de train. On n'est pas non plus d'accord du côté des syndicats d'Alstom qui n'acceptent pas que Siemens détienne 51% de la nouvelle entité. Boris Amorose est délégué CGT.
En fait, ce qu'on a constaté depuis le début, c'est que c'est un projet uniquement d'absorption capitalistique et financière. Derrière, il n'y a aucun projet industriel, il n'y a aucune perspective de recherche et développement, d'innovation. Donc nous, face à tout ça, on pense qu'au lieu de faire cette fusion, il faut en fait mettre des moyens sur l'industrie ferroviaire. Sur l'idée, enfin ce fantasme de faire un champion européen, en fait, Madame la commissaire Vestager l'a déjà dit clairement, Alstom et Siemens sont déjà des champions du ferroviaire mondiaux. Donc en fait, cette tarte à la crème du géant chinois CRRC, elle est certes utilisée par le gouvernement et notre direction, mais en fait, elle n'abuse pas grand monde, et encore moins la commission.
Des propos recueillis par Aurélien Fleureau pour Europe 1. Le 24 avril sera désormais en France le jour officiel de la commémoration du génocide arménien, décision d'Emmanuel Macron. Attendue depuis longtemps par les membres de la communauté arménienne de France, le président l'a annoncé hier soir devant eux, honorant ainsi une promesse de campagne. La date du 24 avril correspond à une rafle d'intellectuels arméniens à Constantinople en 1915.
Donald Trump s'est exprimé cette nuit à Washington devant le Congrès.
Traditionnel discours sur l'état de l'Union qui fixe les grandes lignes pour l'avenir des États-Unis, il a appelé le Congrès à l'unité, notamment sur la question de l'immigration, martelant que le mur à la frontière mexicaine serait bien construit. Il a également annoncé vouloir mettre fin au sida dans le pays d'ici 10 ans, moyens nécessaires à l'appui. Enfin, le président américain rencontrera à nouveau Kim Jong-un les 27 et 28 février au Vietnam, ce afin de poursuivre les négociations sur le désarmement nucléaire de la Corée du Nord. Et puis cette grande première, en 30 ans, aux États-Unis justement, la 91e cérémonie des Oscars, le 24 février, se déroulera sans animateurs. Ce sont les différentes stars d'Hollywood qui assureront l'animation et les transitions entre les 24 catégories qui seront récompensées.
Moi qui espère que ce soit vous.
Bon,
ça aurait eu une sacrée gueule.
Moi aussi.
Moi
oui, on croyait que c'était vous.
J'ai pas les qualités requises, mais Jérôme Lacroix, un showman comme Jérôme, ça aurait été formidable. Mais Jérôme Lacroix, avec vous tous les jours, c'est aussi le dépassement de soi, comme le disaient de manière à peu près similaire Nietzsche et Bernard Minet.
En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes.
Nietzsche n'a pas dit autre chose, hein. On passe au journal des sports.
Vous êtes tous en train de chanter, moi pas du tout, je suis complètement larguée, je sens que je suis beaucoup plus vieille que vous là.
Vous, c'est Goldorak plutôt.
Oui, c'est Goldorak. Ouais.
Aussi, Goldorak.
Et Capitaine Flamme.
Capitaine Flamme, oui, ça ramène très très loin ça. Vous nous raconterez un jour cette enfance dorée. À la une du JDS, Jérôme, les Bastiais y étaient presque.
Les footballeurs corses qui évoluent désormais en 5e division ont failli passer en quart de finale de la Coupe de France. Ils ont finalement été éliminés hier à domicile par les Canets, joueurs de Ligue 1, mais ça s'est joué à rien, au tir au but. 5-3, il y avait 2-2 à l'issue de la prolongation. Les Bastiais ont par 2 fois recollé au score. Du coup, frustration de l'entraîneur Stéphane Rossi qui se consolait tout de même avec le beau succès populaire, 10 000 personnes au stade Furiani.
Quand on a de la maîtrise comme ça, on se doit de passer, je regrette. Nous on s'est précipité, eux moins, mais on a été au niveau. Et donc c'est pour ça que je suis déçu de ne pas être passé. Notre mission aujourd'hui, c'est le championnat, encore une fois. Mais il y a eu de très belles choses en Coupe de France. Et ces matchs-là, justement, nous permettent de fédérer un peu tout le monde. Vous avez vu le public ce soir. On a une vraie aventure humaine qui se met en place.
Des propos recueillis par Frédéric Michel. Également hier, qualification de Dijon, 3-0 chez les nordistes de Croix, 4e division. Qualification des Nantais, 2-0 face à Toulouse. Et des Orléanais, 1-0 à Metz. Aujourd'hui notamment, Villefranche-sur-Saône, 3e division, qui reçoit le PSG, coup d'envoi 18h30 et puis à 21h05, Rennes-Lille.
La Ligue 1, Jérôme, et les Marseillais
respire un petit peu mieux.
Voilà, une victoire après deux défaites d'affilée.
Sublimissime victoire.
1-0-1 sur le score fleuve de 1-0 contre Bordeaux. Match en retard de la 18e journée de Ligue 1 dans un stade Vélodrome sans spectateurs. 8 clos total, c'était la sanction de la commission de discipline de la Ligue. L'OM ce matin, 7e du classement à 9 points tout de même du podium. Un mot de basket avec les qualifications du Mans et de Nanterre pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Alors en basket, c'est la 3e Coupe d'Europe de la hiérarchie. Les deux équipes françaises ont remporté hier leur dernier match de la phase de groupe.
Termine Jérôme avec le chiffre du jour.
2 900 000 euros selon le journal Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. C'est la somme que pourrait avoir à payer la Fédération française de rugby à l'ancien sélectionneur des Bleus, Guy Noves, licencié en décembre 2017. Noves, il réclame le versement des salaires restants dus, mais aussi divers dommages et intérêts, dont 300 000 euros au titre du préjudice de notoriété. L'audience au prud'homme se tient jeudi de la semaine prochaine. Le 14 février, dans l'amour, tout ça.
Dans l'amour pour la Saint-Valentin. Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, un journaliste qu'on peut résumer ainsi. Rigueur, précision, polyvalence, clarté, vous me dites si j'en oublie.
Et n'oubliez pas, bien sûr, l'essentiel, politesse, sourire, modestie.
Oui, bon, on a compris, Jérôme, ça va.
Europe 1. Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, quand tu réalises que ta vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas...
Résiste.
Exactement. Prouve que tu existes et pourquoi pas en changeant de vie. Chaque matin dans Fallait Oser, Europe 1 vous fait découvrir des hommes et des femmes qui l'ont fait. Aujourd'hui, Joanne, elle travaille dans la finance, elle s'est reconvertie gérante d'un estaminet.
Chef, un petit verre, oui. On a soif.
Il propose aussi de la nourriture.
Chef,
pas qu'à boire,
un petit verre, estaminet.
Mais d'abord, un point avec vous, Céline Dacosta, sur la météo. Un ciel couvert sur l'ouest et le centre du pays.
Oui, c'est vrai. Vous dites ça.
Très lentement,
très
parce que mes lentilles, en fait, sont mal mises. Et donc, j'ai du mal à voir votre papier que vous montrez de très loin. Il faut expliquer à nos auditeurs que vous tendez une feuille. Très, très loin. Et c'est écrit tout petit.
Et passez
au Tahoma 18.
D'accord.
Tahoma 18, c'est ma police.
Ça marche. Je le ferai dès demain. Avec des bruines possibles et un ciel pluvieux près de la Manche, puis du vent. De faibles averses ce matin, elles seront plus régulières et soutenues cet après-midi entre la Bretagne et le Cotentin. Du brouillard aussi sur une grande partie ouest ce matin, prudent sur les routes. Pour les autres, temps calme. Encore ensoleillé sur une frange est, sur les Pyrénées, le sud-est et la Corse. Quant aux températures, elles sont en hausse encore cet après-midi. La moyenne ira de 9 à 16 degrés du nord au sud avec un 10 degrés à Paris.
Merci Céline. Météo complète juste avant 5h30. Eva Rock. Alors Eva Rock a déjà envoyé sa musique. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez posé une question aux auditeurs.
Il aurait eu 74 ans aujourd'hui, mais vous, qu'est-ce qui vous rend cool? Eh bien Jean-Sébastien nous répond sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Rien de mieux qu'un bon massage pour être zen. Je suis assez d'accord. Et Philippe nous dit une bonne crise de rire entre copains et copines autour d'une pinte. Je suis assez d'accord aussi. Vous continuez.
De panacher, Eva.
De panacher, bien sûr, sans alcool.
Oui, vous m'avez fait peur.
Bah, évidemment.
Merci.
Vous continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de gaieté et aussi de belles rencontres. Comme chaque matin vers 5h10 dans Fallait Oser, l'interview d'un homme ou d'une femme qui un jour a eu le courage de changer de vie. Ce matin, rencontre avec un couple qui est passé du monde de la finance et des grandes sociétés internationales à un estaminet, un restaurant en périphérie de Lille.
Maxime, il était contrôleur de gestion, Joanne, elle était juriste en droit des affaires et tout est parti d'un anniversaire, c'est 35 ans.
Fallait Oser.
À 35 ans, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. J'en ai marre, je veux changer, je veux bouger, je veux aller vers une autre vie. On voulait un contact avec les gens, en fait. C'est vraiment, on avait cette envie d'avoir du contact immédiat, de discuter, d'avoir des échanges. Et puis on est tombé sur cette opportunité, un estaminet en plein cœur des WEP, à 15 minutes de Lille, donc Lille où on habitait déjà. Et au départ, c'était pas vraiment ce qu'on avait envie de faire, la restauration, parce qu'on se disait que c'était un métier trop exigeant et qu'on n'y connaissait rien. Et puis on s'est dit pourquoi pas, on est tombé amoureux de l'endroit, on a trouvé l'équipe super. Et on s'est dit, bah allez, on va tenter l'aventure, on va reprendre cet estaminet. Là, ça fait 2 mois qu'on a repris maintenant.
Ils ont repris les menus des anciens propriétaires. On trouve donc à la carte des plats typiques du Nord, Eva, hein, de la carbonade flamande, du salé lillois et aussi du potlievich.
Ah oui,
c'est un plat de viande,
exactement. Oui. Maxime et Joanne sont ravis de cette nouvelle vie d'entrepreneur. Et vous savez quoi Mathieu, quel conseil primordial ils donnent à ceux qui changent de vie? Comme souvent tous les matins, c'est savoir bien s'entourer.
On pensait être assez armé sur les aspects juridiques et financiers. Et franchement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est énormément de formalités, c'est énormément d'investissements, énormément de paperasse. Et donc du coup, nous, on était très contents, on a trouvé un très bon expert comptable, on a trouvé un très bon notaire. Et ça, c'est hyper important. Et puis après, c'est juste du bonheur, quoi. Il faut se lancer. C'est juste ça. C'est réussir à un moment à faire le premier pas et à dire, bon, bah, tant pis, on y va maintenant. Et une fois qu'on est dans l'eau, on est dans l'eau, on n'est plus qu'à nager, quoi.
Après le restaurant, Maxime et Joanne projettent déjà d'ouvrir des chambres d'hôtes à côté de leur estaminet.
Et si vous voulez leur rendre visite, leur établissement se trouve au Ménil, dans le département du Nord. Il s'appelle le Ménil Montant.
Nous, on y sera ce week-end. Blague. Réservez-nous deux chambres.
Vous avez entendu ? Ménil Montant. Bon, c'est pas grave.
Jeu de mots.
C'était un jeu de mots, le nom de leur établissement.
Je suis cloué. D'accord. Cloué sur place. J'ai plus de mots pour enchaîner.
À plus
alors,
tard.
Je sais pas, envoyez un jingle.
Europe 1.
Il est 5h13, Mathieu Noël.
À plus tard. Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 à la fois rebelle et drôle, comme nous l'avons encore prouvé hier à l'occasion de la journée mondiale du Nutella.
Vous savez, c'est la journée mondiale de cette petite pâte à tartiner qu'il faut surtout pas manger.
Ah, parce que vous n'allez jamais dire le nom, moi j'en ai rien à foutre, un Nutella. On va pas tourner autour du pot. Eh oui, ça aussi c'était du niveau. À suivre justement, une belle grande tartine de culture. Mercredi, les bons tuyaux, avec nos coups de cœur ciné parmi les sorties du jour et une astuce high-tech pour transformer n'importe quelle enceinte en enceinte connectée. Mais attention à ne pas être trop connecté non plus, c'est en substance ce que nous dira le docteur Ichou dans votre point santé, consacré ce matin à une étude sur l'impact des écrans sur le cerveau de vos enfants.
J'en ai rien à foutre, oui. Les parents sont tous des connards.
Oui, j'ai pas encore lu l'étude, mais je crains de deviner. On en parle, mais d'abord, place à la musique. Get Up, Divaphone et Léa Pacci sur Europe 1.
Some like their dreams to fill their days, inside their broken hearts they wait. The future's fire lights up the gray, until the clouds all blow away. We got to get up.
Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Je veux ton amour dans mes mains. Je veux vivre ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur, j'avance.
There's nothing stronger than us if we can be as one. It's gonna be a new day, my dear. We'll leave these walls tonight to run. We've only just begun. No matter what they all say.
Danse au-dessus des lignes, ici, ailleurs. Je marche sur le vide sans peur. Le sol crache toutes ses couleurs. Le sol tremble, pas plus bas que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire.
Hands up to fire to the sky. We'll keep the outside.
Get Up, Divaphone et Léa Pacci sur Europe 1.
Il est 5h15. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
L'enquête, au lendemain du dramatique incendie dans le 16e arrondissement de Paris, 10 morts, une femme de 40 ans résidente de l'immeuble est fortement suspectée d'être à l'origine du sinistre. Elle a été internée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Deux fois par le passé, la justice l'avait considérée pénalement irresponsable pour actes de violence et tentatives d'incendie. Des experts doivent déterminer si elle pourra un jour être jugée. L'Union européenne s'apprête à interdire le mariage entre Alstom et Siemens. La fusion vise à créer un géant européen du rail pour concurrencer notamment la Chine. Mais la Commission européenne devrait dire non à la mi-journée. Elle craint une position trop dominante et donc un affaiblissement de la concurrence. Enfin, abstention record hier à l'Assemblée nationale lors du vote du projet de loi anti-casseurs. 50 députés de la majorité se sont abstenus. Ils jugent liberticide le texte, toutefois adopté à une très grande majorité. Le projet de loi sera devant le Sénat le 12 mars.
Europe 1.
Voici pour les titres de ce 6 février et tout de suite on prend la direction de l'hippodrome, retrouver notre pronostiqueur fou Thierry Léger, dont je suis sûr que si nous organisions une course dans l'équipe de DLC, il miserait sur Eva.
C'est la plus riche de ce quintet, mais certainement pas la plus docile.
Exactement. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Vincennes et mon pari gagnant sera le 108 Brissel. Bien-né étant issu du crack étalon Redicash et d'une poulinière suédoise, Space Lane, particulièrement efficace avec ses rejetons, celui-là est à la hauteur de son pédigré. Aussi performant chez lui en Suède qu'à Vincennes, il enchaîne depuis plusieurs mois les bons résultats et le style de son dernier succès me permet de vous affirmer qu'il devrait pouvoir sur sa lancée remporter cet après-midi sa 12e victoire pour seulement 36 tentatives. Alors notez bien, pour Vincennes, réunion 1 dans la première course, le numéro 8, Brissel.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h17.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et c'est le moment que vous attendiez. Ce moment convivial et pas forcément toujours naturiste, où toute l'équipe de DLC se retrouve à la table du petit déjeuner après ce matin une bonne nuit de sommeil grâce à notre invité d'hier. En effet, Nicolas Caro, le monsieur livre d'Europe 1, est passé prendre le café et sa conversation sur les inédits de Salinger qu'on venait de redécouvrir nous a plutôt fait l'effet d'une tisane. Caro parlait, Eva et Céline s'endormaient sur le canapé, elles luttaient pour garder les yeux ouverts, mais peu à peu, leurs paupières devenaient lourdes. L'une a essayé de donner le change, l'autre n'a pas réussi.
Les inédits de Salinger, il y a les spécialistes qui disaient non, il n'y a rien. Depuis 50 ans qu'il n'avait pas publié, qu'il restait cloîtré chez lui.
Ah ouais? C'est génial.
Je dors là en fait.
Enfin les filles quand même. Salinger, un mythe de la littérature américaine. La trappe-cœur quand même.
On s'en fout non?
Bon, j'abandonne, allez, on passe au principe. Notre revue de presse en mode zapping. Ce matin, à la une des quotidiens, les images d'un immeuble en flammes, celui du 16e arrondissement de Paris. L'incendie de la nuit dernière fait la une du Parisien avec ses mots « Une nuit d'enfer ». Même photo en première page de Libération qui se demande par ailleurs comment la France se prépare au Brexit. Et puis évidemment, comment ne pas se réjouir de la une de l'équipe avec une équipe de foot marseillaise. Heureuse, Jérôme. Le plein espoir, titre le quotidien sportif, après la victoire de l'OM contre Bordeaux, dans un stade vide, 1-0. Oui, mais vous.
Oui, parce qu'on le voit, le stade vide, sur la photo en question.
Mais vous, mes insatiables picoreurs de news, qu'avez-vous déniché dans la presse? Eva.
Exercice de géopolitique français ce matin, grâce au Figaro. Mais oui, je vous ai amené la carte de France. Ils ont choisi de scruter de près ceux qui participent au grand débat national, région par région.
Ah, mais il y a vos parents déjà à Nice.
Il y a mes parents. En ce moment, ils sont un peu loin de la France. Ah, oui, mais voilà. Carte et autres graphismes à l'appui. En fait, les journalistes ont donc analysé les 3646 réunions organisées dans ce cadre. Et premier constat, ce sont les départements ruraux qui sont les plus réceptifs à cette initiative. Si on rapporte en fait le nombre de débats au nombre d'habitants, ce qui est plutôt intéressant comme mesure. Alors là, Palme revient au département des Alpes de Haute-Provence, devant la Haute-Saône, le Lot, l'Orne, la Drôme, le Tarn. C'est un constat assez logique en fait, parce que c'est dans ces zones que les habitants sont dépendants de leurs véhicules, qui sont victimes de l'éloignement des commerces et des services publics. La France des oubliés, comme on les appelle, hein, selon le Figaro, qui affirme qu'une forme de conscience collective est particulièrement forte dans ces départements. Et à contrario, dans les secteurs les plus urbanisés, les débats ne font pas recette. Alors ils citent le département de la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, à Paris ou encore dans le Val-de-Marne. Et Sébastien Cornu, qui est ministre en charge des collectivités locales, explique, il dit, dans les grandes villes, les instances de dialogue existent déjà, comme les conseils de quartier, par exemple. La nécessité de se saisir du grand débat pour s'y exprimer y est sans doute moins forte qu'ailleurs. Explication, à mon sens, un peu rapide, parce que notamment dans le cas de la Seine-Saint-Denis, on sait, il y a déjà eu beaucoup de reportages qui ont été faits à ce sujet, les banlieues se sont un peu exclues en fait, du débat des Gilets jaunes et par conséquent du débat national. Mais alors cette spécificité des banlieues n'est absolument pas prise en compte dans cette étude du Figaro. Donc c'est un point d'interrogation, j'étais assez surprise. Reste que le grand débat, c'est pas seulement ces réunions publiques, c'est aussi la plateforme numérique, vous savez, sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour participer et répondre aux questions. Il y a près de 280 000 personnes qui sont déjà inscrites, ce qui est beaucoup quand même. Parmi les sujets, c'est la fiscalité et les dépenses publiques qui provoquent le plus de propositions. 25% des remarques concernent également la transition écologique. Précision, c'est le dossier qui inclut également les questions sur les transports. Donc c'est normal aussi que les gens participent beaucoup à ce dossier. En revanche, le dossier démocratie et citoyenneté, c'est celui qui mobilise le moins. Comme quoi, peut-être que le référendum, au fond, c'est pas la principale interrogation pour les Français. Et puis, il va falloir également prendre en compte toutes les remarques des citoyens qui sont consignées dans les 9000 cahiers de doléances qui sont déposés en mairie, sans parler des courriers individuels. Et ben, figurez-vous que la synthèse, elle est prévue pour le 15 mars. Et ben, bon courage.
Là, il y a des conseillers et des assistants qui doivent s'activer.
Et puis, je pense qu'il y a un peu d'intelligence artificielle aussi pour tout ce qui est numérique, en fait.
Ah, vous pensez, carrément?
Oui, ils sont obligés.
Il y a un algorithme qui trie les questions.
Oui, parce que je crois qu'ils ont calculé...
Grave ce que vous dites, Eva.
Non, pas du tout. C'est pas ça, mais c'est parce qu'ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas le temps matériellement d'analyser toutes les données de toute façon. Donc, ils vont devoir faire appel à des algorithmes. Exactement. D'ailleurs, des petits malins qui viennent un peu tronquer les réponses en mettant des phrases types pour que ça soit des sujets qui remontent en fait de façon plus forte dans les débats, alors que c'est pas forcément les préoccupations des Français. Voilà. Merci. C'était à lire dans le Figaro.
Dans le Figaro. Merci beaucoup, Eva Roque. Céline Acosta.
Je vais vous parler d'un article trouvé dans 20 minutes qui revient sur l'histoire de ce jeune garçon de 11 ans qui habite à Wilmington dans le Delaware aux États-Unis et qui porte comme une croix son nom de famille puisqu'il s'appelle Joshua Trump.
Oh, oui, oui.
Et depuis la fin de la campagne de Donald Trump, il a vécu des moments difficiles, on peut le dire. On l'embêtait beaucoup à l'école, à tel point que ses parents ont décidé de le retirer de l'école en 2017 pour lui faire suivre un enseignement à distance. Il a fini par réintégrer l'école
à ce point-là.
Pour démarrer l'équivalent du collège. Ouais, ouais, à ce point-là. Mais dès qu'un professeur faisait l'appel, le cauchemar recommençait. Joshua disait qu'il se haïssait, qu'il détestait son nom de famille. Il se sent perpétuellement triste, dit sa mère, et dit ne plus vouloir vivre avec cette impression, ce qui est quand même terrible pour des parents. Alors à l'école, on a demandé à ses professeurs de ne plus prononcer son nom de famille, on en est là. Ils ont également sanctionné 5 élèves qui se sont excusés auprès de Joshua. On en arrive à un point où lui et l'école avaient même décidé qu'il changerait de nom pour prendre celui de son père, qui s'appelle Berthaud. Donc c'est sûr que là, forcément, il se ferait moins embêté. C'est ce que nous explique Claudio
Cirullo. Il a changé de nom, il a qu'à s'appeler Obama.
Non, mais ça sera clair. Sort de la politique, Joshua. C'est ce que nous explique Claudio Cirullo, fondateur du site Apprendre à lutter contre le harcèlement. En vrai, le site est en anglais, mais je ne vous le dis pas parce que c'est impossible de le lire. Peut-être que vous pourriez le lire, Eva.
Non.
Si, si, ah, si, ça serait intéressant là, d'ailleurs. Non, un là, exercice pour vous, site, Eva.
Voilà, c'est vrai. Je vous laisse découvrir, c'est magnifique.
Donc, c'est le nom du site que vous voulez lire en fait.
Allez-y. Apprendre à lutter contre le harcèlement.
C'est facile. Teach anti-bullying.
Anti-bullying.
Il
y avait un grec et un i ensemble, je ne savais pas trop. Bref, en tout cas, c'est apprendre à lutter contre le harcèlement. Il en a été question, mais justement, Claudio et l'association l'ont encouragé à ne pas le faire, à ne pas changer de nom. Ils lui ont même remis une médaille mi-décembre pour saluer son courage. Et c'est comme ça que Melania Trump a entendu parler de Joshua et a décidé de l'inviter au Congrès américain à Washington pour le discours solennel du président sur l'état de l'Union qui a eu lieu cette nuit, qui est terminé. La première dame a fait du harcèlement chez les enfants l'une de ses grandes causes, même si jusqu'ici, son programme n'a produit que très peu d'initiatives. Et on va dire que son mari, en s'en prenant régulièrement à de nombreuses personnalités anonymes, ne sert pas vraiment sa cause. Hein, on peut dire qu'il en est. J'ai perdu ma deuxième page, c'est ballot. Dean Obedala, le seul animateur radio musulman à avoir une émission de grande écoute aux États-Unis, a déclaré que Trump devrait s'excuser d'avoir rendu la vie de Joshua si difficile pendant son discours. S'il n'était pas raciste, sexiste, sectaire et ne mentait pas en continu, l'existence du jeune Joshua ne serait pas si compliquée. À bon entendeur. En attendant, je pense qu'il a pas fait, il s'est pas excusé pendant le discours.
Ça n'a pas été évoqué dans les dépêches de l'agence française.
En attendant, je suis pas sûr que l'invitation de Melania Trump arrange les affaires du petit Joshua.
Je suis pas sûr non plus, mais moi ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est qu'il doit y avoir plein d'enfants qui s'appellent Trump aux États-Unis et qui se font charrier dans la cour de récré. Non,
je sais pas. Ça doit être un nom assez courant quand même.
Très très rare aux États-Unis.
Mais enfin, cette invitation était un peu idiote quand même.
C'est un peu étonnante. Jérôme Lacroix.
Oui, pour votre prochain dîner ou apéro, Mathieu, que diriez-vous d'un petit verre de lapin impérial, de lapin d'or ou de grande antilope ?
Un verre
de lapin d'or, de grande antilope, oui.
Sans façon.
Parce que ce dont je vous parle, ce sont bien des vins. Des Bordeaux. Oui. Alors, non pas que ce soit une incongruité totale de voir un nom de vin associé à celui d'un animal, vous connaissez peut-être le château Cheval Blanc, qui est l'un des plus grands crus de Saint-Émilion.
J'en ai entendu parler.
Voilà, nous on a vu un corbière avec Eva qui s'appelle Cochon Volant, voilà, qui est un peu moins connu, on a vu ça. Alors,
c'est plus abordable.
Sauf que,
beaucoup plus.
En plus, c'est 9,90. Mais les dénominations que je viens de vous citer, lapin d'or, lapin impérial, grande antilope, elles sont plus récentes. En fait, elles ont changé. Alors, il y a déjà plusieurs mois, mais il s'agit là de certains châteaux du vignoble bordelais passés sous pavillon chinois et ses nouveaux. Ce sont les nouveaux propriétaires qui ont choisi des noms.
Ils ont décidé d'enlever le nom du château et de mettre de la grande antilope.
Exactement.
Le petit dragon fougueux.
Un peu plus exotique. Donc château lapin d'or, château lapin impérial, château grande antilope et même château antilope tibétaine. Voilà. Alors ce matin,
ça c'est la typicité du terroir français.
Voilà. Alors ce matin, le journal Sud-Ouest se fait l'écho d'un coup de gueule, une lettre de l'auteur bordelais Philippe
Olivier
Solaire.
Pouls. Philippe
Solaire, une lettre adressée à Alain Juppé. Il reproche au maire de Bordeaux de ne pas avoir manifesté son opposition à ces changements de nom. Il écrit, Philippe Solaire, « Je ne suis pas excessivement curieux de connaître la vie des lapins ou des antilopes, n'en ayant jamais rencontré dans mon enfance à Bordeaux. N'y a-t-il aucun moyen de réattribuer ces vins à leur source légitime fixée par les siècles ?» Il conclut.
Ça c'est.
Voilà. Oui. C'est fait.
Évidemment.
C'est noté. Il est 5h26.
C'était pour eux.
Il fallait pas pousser l'enquête du journaliste jusqu'à boire ses vins avant de venir à l'antenne.
Ça m'est monté la tête. Donc il conclut, Philippe Solaire, en qualifiant l'affaire de consternante. Et Sud-Ouest apporte la précision
que j'attendais personnellement, non sans humour. Alain Juppé n'est pas l'empereur de Gironde, écrit le journal. La valse des étiquettes en AOC obéit notamment à une règle simple, la liberté du choix de nom du moment qui n'est pas déposé. En gros, Alain Juppé n'a aucun moyen légal, en tout cas, d'empêcher ça. C'est pas ce que demandait Philippe Soler, ça, il lui demandait juste de réagir. Les nouveaux propriétaires chinois ont bien compris que personne n'avait les moyens de les empêcher de renommer les châteaux. S'ils rebaptisent les châteaux qu'ils possèdent désormais, c'est aussi pour plaire à ceux à qui ils veulent vendre, hein, à savoir leurs compatriotes.
Bah oui, tout simplement. C'est logique. Merci Jérôme, merci à tous les amis. Le pressing referme ses portes. Céline, une dernière remarque.
C'est vrai que c'est bon, la pâte à tartiner spéculoos.
Merci. Ah
bah oui. Europe 1.
Il est 5h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo et le journal d'Hélène Zélani. Stimulant réveil à l'écoute d'Europe 1. Non, mais non, rangez-moi ça, c'est une image là.
Europe 1, bien dans son époque.
Mieux comprendre, mieux se comprendre.
Du digital, de l'innovation, de la réflexion.
Écoutez de la bonne musique. Avancer, se retrouver.
Et humour, sourire, aller vers l'autre. Vos témoignages.
Nous partagerons vos expériences.
Vos questions.
En ligne au 3921. Bonsoir Monica.
Bonsoir Mathieu.
Europe 1, c'est une offre complète.
Bouger, cuisiner, réfléchir, se balader, se rapprocher.
Avec les copains et les copines.
Se faire du bien.
On est bien sur Europe 1.
Il est 5h28, c'est Mathieu Noël.
Céline Dacosta, et si nous faisions un point sur la météo de ce 6 février, j'ai particulièrement envie de savoir ce qui se passe dans le Lot. Alors, donnez-nous vite des nouvelles du Lot. Un temps agité près de la Manche, d'abord, me dites-vous.
Oui, on va commencer.
Bon, alors la Manche, commençons par la Manche.
On va commencer par la Manche, avec dès ce matin de faibles averses et du vent de la pointe bretonne au Pas-de-Calais. Elles vont se renforcer avec une nouvelle perturbation qui va arriver en fin de matinée par le Finistère et qui apportera là des pluies régulières et parfois soutenues entre la Bretagne et le Cotentin. Ça sera pour l'après-midi. Pour les autres, le ciel va rester couvert entre le Poitou-Charentes, la Gironde, la région centre et l'Île-de-France, puis en montant vers les Ardennes avec des brunes possibles pour le Lot aussi. Partout ailleurs, sur l'extrême sud et une frange est, le ciel va rester plutôt clément avec des éclaircies comme hier. Grand soleil encore près de la Méditerranée pour la Corse. Attention ce matin aux brouillards qui sont nombreux sur l'ouest du pays, brouillards qui peuvent être givrants dans la vallée de la Saône en Bourgogne.
Un mot des températures.
Encore dégelé hein, ce matin, surtout dans l'est. Pour les autres, la température va de 1 à 7 degrés dans les terres. Puis cet après-midi, ça grimpe encore, on verra ça en détail tout à l'heure.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui soigne vos zygomatiques, mais qui veille aussi au fonctionnement de tous vos autres organes grâce au point santé quotidien du docteur Ichou.
Les ovaires, les testicules, pour ne parler que de cela.
Oui Marcel, et ce matin c'est une étude qui a retenu l'attention du bon docteur, une étude édifiante sur l'impact des écrans sur nos jeunes. Et Eva, comme diraient justement les jeunes...
C'est pas piqué des hannetons.
On y vient.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce 6 février 2019. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Les questions autour de l'incendie meurtrier du 16e arrondissement de Paris. Une habitante de l'immeuble est soupçonnée d'être à l'origine des flammes qui ont coûté la vie à 10 personnes. Elle est internée en psychiatrie. Le vote de la loi anti-casseur hier à l'Assemblée avec une abstention record de députés marcheurs. Et puis le discours de Donald Trump sur l'état de l'Union. Il promet d'éliminer l'épidémie de sida aux États-Unis d'ici 10 ans.
Europe 1.
C'est donc l'incendie le plus meurtrier à Paris depuis près de 14 ans. Au moins 10 personnes sont décédées hier matin rue Erlinger dans le 16e arrondissement. Une trentaine d'autres ont été blessées. Bilan très lourd qui s'explique notamment par la difficulté d'accéder à l'immeuble sur cour. Les flammes se sont propagées rapidement car les habitants ont ouvert leurs portes créant un appel d'air. Avec ce genre de drame se pose la question des extincteurs. Ils ne sont obligatoires que dans les lieux accueillants du public et peuvent avoir un effet pervers comme l'explique le pompier Patrick Chavada de la Commission Prévention et Éducation des Citoyens face aux risques.
L'extincteur n'est pas obligatoire dans une habitation classique. L'extincteur va avoir tendance à dire aux gens « allez éteindre le feu ». Et il faut savoir que comme c'est la fumée qui tue, il vaut mieux comme principe dire « soit vous avez un départ de feu à la maison que vous pouvez traiter avec un verre d'eau, une casserole d'eau très rapidement parce que c'est un début d'incendie ». Mais dès qu'on a un incendie qui commence à se déclarer avec de la fumée qui se dégage relativement importante, le mieux c'est d'évacuer les lieux, de fermer la porte, de ne pas essayer d'éteindre le feu. J'aurais tendance à dire qu'il faut éviter de prendre un extincteur et d'essayer d'aller éteindre le feu parce qu'on va se mettre en danger, on va dans la fumée.
Voilà des propos recueillis par Martin Lange. Un incendie d'origine criminelle, une habitante de l'immeuble âgée d'une quarantaine d'années aurait voulu se venger d'un voisin. Elle avait de sérieux antécédents psychiatriques et a d'ailleurs été internée après quelques heures de garde à vue.
La fermeture de la Tour Eiffel pour cause de grève, symbole d'une journée de réussite. Selon le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez, hier, 300 000 personnes ont manifesté dans 200 villes selon le syndicat. 137 000 selon le ministère de l'Intérieur. Des gilets jaunes ont participé au défilé.
Discours de Donald Trump face au Congrès pour présenter sa vision de l'avenir.
Oui, le fameux discours sur l'état de l'Union. Le président américain a lancé un appel au compromis avec les démocrates. Il s'est montré très virulent sur l'immigration. Et puis, il a fait cette promesse étonnante, dégager les moyens nécessaires pour mettre fin à l'épidémie de sida aux États-Unis avant 2030.
Europe 1, il est 5h32.
Un vent de fronde a soufflé hier à l'Assemblée nationale lors du vote de la loi anti-casseurs.
Oui, le texte a bien été voté en première lecture hier soir. Il prévoit notamment des interdictions de manifester prises par les préfets ou encore le principe du casseur-payeur. Mais plus de 50 députés de La République En Marche se sont abstenus. C'est du jamais vu pour un texte de loi, Virginie Riva.
Pas de malaise, c'est le message officiel de Gilles Legendre, chef de groupe En Marche. Et pourtant, il y a bien un vrai ras-le-bol chez ces 50 députés qui n'ont pas voté. L'un de nous le confie, la politique du gouvernement penche trop à droite. Stop. En coulisses, les abstentionnistes ont donc réussi à se coordonner pour peser. Ils ne veulent pas de l'article 2 qu'ils jugent liberticide. Aurélien Taché fait partie de ce groupe.
Il y a un sujet de principe avec le fait de transférer au préfet la possibilité de restreindre les libertés individuelles des Français. Dans le texte actuel, c'est très encadré, mais on ouvre une brèche dans laquelle d'autres pourraient s'engouffrer si par malheur ils arrivaient au pouvoir.
Début de fronde, les marcheurs ne veulent surtout pas entendre parler de ce mot, ni même de courant. Ils parlent de sensibilité. Mais pour le député républicain Philippe Gosselin, la majorité commence bien à se fissurer.
La majorité est au début d'un certain nombre de difficultés et tout dépend comment l'atterrissage en mars-avril se fera après ces débats entamés depuis quelques semaines par le président de la République.
Abstentionniste, oui, mais pas opposant. Les 50 marcheurs espèrent bien modifier le texte lorsqu'il reviendra à l'Assemblée en deuxième lecture. Sinon, cette fois-ci, ils l'ont dit, ils voteront non.
Virginie Riva. Bruxelles s'apprête à interdire la fusion de l'allemand Siemens et du français Alstom. Le projet de fusion devrait être retoqué aujourd'hui par la Commission européenne, car le nouveau groupe aurait un quasi-monopole dans plusieurs pays de l'Union. Emmanuel Macron va créer une journée nationale de commémoration du génocide arménien. Ce sera le 24 avril. Il l'a dit hier soir face aux Arméniens de France et il honore ainsi une promesse de campagne.
Opération sous-marine compliquée aujourd'hui au fond de la Manche.
Plus de deux semaines après la disparition de l'avion du footballeur Emiliano Sala, les sauveteurs vont tenter de récupérer le corps repéré dans l'épave de l'appareil. On ne sait pas s'il s'agit de l'Argentin ou du pilote britannique. L'appareil repose à 68 mètres de fond et les conditions météo sont très difficiles. Et puis un appartement parisien vient d'être vendu. 39 millions d'euros, c'est du jamais vu dans la capitale.
Je ne voulais pas que ça soit public, Hélène.
Désolée, mais je suis obligée de le dire. Hein. Plus de 1000 mètres carrés, vous pouvez faire de grandes fêtes. 300
oui,
mètres carrés de jardin.
Je comptais vous inviter, mais là, je ne sais pas.
Hein. Il est situé rue des Saint-Pères, dans le 7e arrondissement, mais vous le savez.
Bien ce quartier.
Bon, alors, du coup, on apprend que vous êtes devenu chef d'entreprise européen qui
oui,
a choisi de quitter l'Angleterre
à
cause du Brexit.
C'est
puisque...
une double vie que je
voilà.
mène, oui.
Que des scoops ce matin dans le journal de 5h30.
C'était le journal d'Hélène Zelleni. Hélène, est-ce que vous avez envie de vibrer? J'ai ce qu'il vous faut. Mieux que l'offre foot de Canal+ à 39,90€. Mieux que l'offre beIN Sport 100% des matchs de Ligue des Champions à 43,90€. Découvrez le forfait GG Lacroix. 100% des matchs les plus pourris pour 2,90€ par mois.
18h30, Metz-Orléans, Nantes-Toulouse, Croix-Dijon.
Et oui, et les 70 premiers matchs sont offerts. On passe au journal des sports de Jérôme Lacroix.
Pas sympa du tout pour ces équipes-là.
C'est vrai, on les embrasse toutes, hein, c'est juste de l'humour. À la une, un peu de soleil dans la grisaille.
Ce sont des mots du journal La Provence ce matin qui met en une un sourire chez les footballeurs de l'OM. Et c'est rare ces derniers temps. Bim, les footballeurs marseillais ont gagné hier soir en match en retard de Ligue 1 1-0 contre des Bordelais pas trop inspirés, on va dire. Et l'unique
contre
buteur...
des Bordelais brillants, c'est juste que nous, on a été encore meilleurs qu'eux.
Et l'unique buteur en une donc de la Provence ce matin, c'est Boubacar Camara, défenseur, 19 ans, un vrai minot, comme on dit, né à Marseille. Premier but en professionnel, il raconte. Dans ce moment de bonheur intense, il a d'abord pensé à ceux qui lui sont chers.
À ma famille, à mes proches, à ma copine, à mes petits frères, à mes petites sœurs. C'est indescriptible. De là, tu es content, tu es heureux, tu sais plus quoi faire. C'est notre folie à nous.
Alors, la rencontre se déroulait dans un stade Vélodrome sans spectateurs dans les tribunes. Un huis clos total récemment décidé par la commission de discipline de la Ligue. Sanction après notamment un jet de pétard depuis une tribune il y a 10 jours face à Lille. Ce stade si silencieux a noué l'estomac d'un président marseillais, Jacques-Henri Hérault. En colère contre la commission, s'il n'élude pas le caractère dangereux des incidents il y a 10 jours, hein. Le huis clos total, tonne-t-il, n'est pas une réponse adaptée.
C'était une soirée épouvantable,
malgré la victoire. Je crois qu'il faut une prise de conscience à la Ligue. Ça n'est ni la bonne réponse, ce que doit être le spectacle sportif et un match de football. Là, il est temps de se poser vraiment la question, de mettre le sujet sur la table et je le ferai. En tant que membre du conseil d'administration de la Ligue, je le ferai dans les jours qui viennent.
Les Marseillais 7e du classement de Ligue 1 ce matin à 9 points du podium.
La Coupe de France et les plus petits engagés sont désormais des Bretons.
Les Bretons de l'AS Vitré en Ille-et-Vilaine 4e division, ils affrontent à partir de 18h30 Lyon-Duchère 3e division pour une place en quart de finale également à 18h30. Villefranche-sur-Saône 3e division face au PSG. Les Vitréens sont donc les plus petits. Depuis hier soir, l'élimination des Bastiais qui jouent en 5e division face au Canet, joueur de Ligue 1. Ça s'est fini au tir au but. 5-3 pour les Normands, donc de partout à l'issue de la prolongation après que les Corses, devant 10 000 spectateurs à Furiani, sont revenus deux fois au score. Qualification par ailleurs hier de Dijon, Nantes et Orléans.
On termine Jérôme avec la personnalité du jour.
Mais oui, j'ai choisi Adrien Rabiot parce que vous savez que le footballeur du PSG est pour l'heure banni de toutes les rencontres. Il est en conflit de contrat avec le club, mais le milieu de terrain, talentueux, au caractère fort certes, mais talentueux, ferait sans doute du bien à l'entrejeu parisien en ce moment. Alors, il a finalement été inscrit par le club sur la liste des joueurs amenés à disputer la Ligue des Champions et notamment le 8e de finale aller mardi prochain face à Manchester United. Trop tôt toutefois pour dire si Rabiot sera bientôt de retour sur les terrains.
Merci beaucoup. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et au fait, Jérôme, ça tient toujours l'invitation pour la raclette coquine vendredi ?
Maillot slip, obligatoire.
D'abord, on est quand même gentleman.
Europe 1. Il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 rieur qui gambade sur la verte prairie de l'actu avec la même légèreté qu'Eva Rock du temps où elle était championne d'athlétisme. Une époque révolue, hélas, depuis ce lancer de marteau malheureux qui avait coûté la vie à un arbitre.
Ah merde.
Bref, à suivre notre point santé. Et en cette journée mondiale sans téléphone portable, on se penchera justement via une étude sur l'impact des écrans sur le cerveau de nos jeunes. Un impact qu'on peut résumer ainsi.
Renault Occasion, c'est aussi de l'électrique.
On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59€ par mois, hors location de batterie. Tout le monde va passer à l'électrique.
Zoé Life 3 ans, 25 000 km, LLD 37 mois, premier loyer de 3 100€ ramené à 600€ après déduction prime à la conversion. Si Accordiac, offre sous condition de mise au rebut valable jusqu'au 30 juin 2019. Voir Renault.fr.
Il est 5h39, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, l'heure de faire un point sur la météo.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine.
Et surtout grâce à Céline Dacosta, avec la douceur qui persiste aujourd'hui, Céline.
On va même gagner encore quelques degrés cet après-midi, puisqu'on aura jusqu'à 18 degrés à Perpignan. Il en fera 16 à Nîmes, 14 à Bordeaux, 11 à Brest, 10 à Paris et 9 à Lille. Côté ciel, c'est couvert sur l'ouest avec un temps agité et pluvieux. Surtout cet après-midi, près de la Manche, on aura des averses soutenues entre la Bretagne et le Cotentin. Encore du soleil pour les Pyrénées, le flanc est, le sud-est et la Corse. Et puis attention ce matin aux brouillards qui sont nombreux sur l'ouest du pays.
Merci Céline. Et Baroque, est-ce qu'on reparle de votre question que vous avez posée aux auditeurs ce matin sur Bob Marley?
Évidemment, parce que Bob Marley aurait
74
ans. Exactement, mais vous, qu'est-ce qui vous rend cool? Qu'est-ce qui vous rend cool? Qu'est-ce qui vous rend zen? Alors évidemment, Olivier, par exemple, légale, sur Twitter, Olivier, sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, nous a envoyé la photo d'une feuille de cannabis. Jean-Pierre nous dit, ce qui me rend zen, c'est de vous écouter toute la journée. Ça, c'est très sympa. Sébastien, lui, ce qui le rend cool, c'est manger une tablette de chocolat tout entière. Et puis Carlisa, elle dit, moi, ça j'ai va, beaucoup de mal cool à être cool. Oui. Massage, verre de vin avec modération, méditation, yoga, il n'y a rien qui me rend cool. J'ai beaucoup de mal à lâcher prise, mais lâcher prise en nous écoutant, vous allez voir, ça fait du bien.
Mais la sophrologie, Eva?
Non, mais c'est pas moi, c'est Carlisa. Moi, je vais très bien. Cool, hein.
Vous allez très bien, faut le dire vite.
Oui, je vais très bien.
Non, réfléchissez quand même.
Mais
réfléchissez.
Non, je vais très bien.
Allez. Merci.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
L'heure de notre point santé quotidien. Bonjour docteur Marcel Ichoux.
Bonjour Mathieu.
C'est aujourd'hui la journée mondiale sans portable. L'occasion. Diantre, c'est ça que vous avez utilisé comme mot. Je vous rappelle qu'on essaie de cibler une clientèle plus jeune. Donc,
Crotte.
C'est aujourd'hui donc la question de nous interroger sur notre rapport aux écrans. Télévision, smartphone, jeux vidéo. En moyenne, les jeunes âgés de 2 à 17 ans passent plus de 3 heures par jour devant un écran. Quelles sont les conséquences de tout ça, docteur Ichou?
Alors, si vous lisez cette étude, vous allez encore vous faire du souci, je vous plains, Mathieu.
Certainement.
Parce qu'il y a une corrélation entre le temps de passé de nos enfants devant les écrans et les troubles psychiques ou neurologiques. Troubles de l'attention, tendances dépressives et difficultés relationnelles.
Et la situation est grave, on peut aller à contre-courant de l'évolution numérique ou pas?
Bien sûr que non, il faut prendre ces études avec beaucoup de recul parce que il n'y a pas d'addiction aux écrans, tout ça est tout à fait réversible. Ces addictions correspondent à des situations et des profils pathologiques, situations notamment familiales. L'usage abusif des écrans n'est jamais irréversible. Les écrans ne sont pas mauvais par nature, c'est leur usage qui peut l'être.
Et l'enjeu n'est donc pas de bannir les écrans, mais plutôt d'apprendre à nos enfants à les gérer.
C'est compliqué, hein ?
Bah oui. Ouais.
Bah, c'est compliqué, mais de toute façon, vous ne lutterez pas contre l'évolution numérique de notre société. Et si on les extrait de ce paysage numérique, on va en faire des gens handicapés dans notre société. Donc ce qu'il faut, c'est encadrer, c'est-à-dire voir le contexte global de l'enfant, que les parents s'occupent de leurs enfants, qu'ils soient très attentifs à leur sommeil, à leur alimentation et qu'ils fixent des limites. Là encore, il n'y a aucune fatalité.
On dit notamment qu'il ne faut pas les écrans, c'est surtout pas avant de se coucher.
Oui, pour tout le monde, même cerveau. Pour nous. Hein.
Tout à fait.
Oui, mais particulièrement
fait.
Les enfants,
oui.
Je pense.
Il vaut mieux
leur lire une petite histoire à l'ancienne à ce
exactement.
Moment-là. Moi, c'est ce que je fais. Je me permets de donner mes conseils comme ça à l'antenne d'Europe 1 pour tous les parents qui nous écoutent. Merci, docteur Ichou.
Vous me raconterez une histoire ce soir, Mathieu ?
Ce soir, je vous lirai Les Trois Petits Cochons. Une version spécialement pour vous, Les Trois Petites Cochonnes. Ça finit pas tout à fait pareil que l'histoire que nos enfants connaissent. Merci, docteur Ichou. On se retrouve demain à 5h40 pour un nouveau Point Santé.
Vous êtes grave.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui manie la carotte de l'humour et le bâton de l'info sans jamais oublier l'importance vitale pour l'être humain, sociable et moderne de la culture. À suivre, tous les conseils et astuces de nos experts. Quel film aller voir au cinéma? Quel film regarder sur Netflix ce soir? Comment transformer une enceinte, et j'entends par là n'importe quelle enceinte, en enceinte connectée? Ce n'est pas de la magie, c'est mercredi les bons tuyaux.
Waouh!
Comme vous dites les filles, toutes ces merveilles vous attendent. Juste après une vivifiante parenthèse musicale, You're the best thing about me. YouTube. Eh ben, YouTube sur Europe 1. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby, you don't even know. When the world is out. Vous savez quoi, Eva? You're the best thing about me. You too, sur Europe 1.
Il est 5h46.
On ne sait plus, vous ne savez plus trop.
5h46, voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
L'enquête au lendemain du dramatique incendie dans le 16e arrondissement de Paris. 10 morts, une femme de 40 ans, résidente de l'immeuble, est fortement suspectée d'être à l'origine du sinistre. Elle a été internée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Deux fois par le passé, la justice l'avait considérée pénalement irresponsable pour actes de violence et tentative d'incendie. Abstention record hier à l'Assemblée nationale lors du vote du projet de loi anti-casseurs. 50 députés de la majorité se sont abstenus. Ils jugent liberticide le texte, toutefois adopté à une très large majorité. Enfin, Donald Trump a prononcé cette nuit à Washington le discours sur l'état de l'Union. Il a appelé le Congrès à l'unité, notamment sur la question de l'immigration, martelant que le mur à la frontière mexicaine sera bien construit. Il a également annoncé vouloir mettre fin au sida dans le pays d'ici 10 ans. Moyen nécessaire à l'appui.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 6 février. Et Céline, si je vous dis qu'on va maintenant ouvrir la page des pronostics hippiques...
Je suis fatiguée. Il me faut un café.
Oui, donc, bah, le frisson des courses, Céline, le frisson des courses. Bonjour José Coves.
Bonjour les amis, 8 Suédois sur les 18 trotteurs dans cette première course à Vincennes. Parmi eux se trouve le numéro 8, Brissel, c'est le portrait robot du vainqueur. Autre Scandinave de talent, Angle of Attack, le numéro 11, il vient de sur cette piste de crever l'écran. La meilleure chance tricolore, numéro 1, Bayoko Satou, il s'est déjà imposé brillamment sur ce tracé des 2100 mètres. Un troisième trotteur venu du froid, le 10, Melby Drake, il n'a jamais déçu sur ce tracé. N'oublions pas aussi le numéro 2, Koalinka City, drivé par le maestro Jean-Michel Bazir. On peut ajouter le 13, Eldrick Bocco, cette fois les pieds nus, son réveil est programmé. Et enfin le 15, Panoramique, et le 18, Final Hawk, ils ne viseront qu'une petite place, mais à grosse cote.
José, pourquoi Brissel, le 8, est-il le portrait robot du vainqueur?
Brissel est en super forme, il possède les meilleurs titres, il est au départ d'un engagement au nord en pole position derrière la voiture du starter associé à l'excellent Byung Goop. Que des bonus, Mathieu. Je viens de vous brosser le portrait d'un vainqueur potentiel et soyez gentil, lisez-moi les trois petites cochonnes.
Oh, bravo.
Volontiers, je ferai ça la prochaine fois.
Il est 5h48.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici mercredi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Grégoire Martinez pour les nouvelles technologies et celui qui, lassé qu'on donne à chaque fois son titre de vice-chef adjoint délégué du service culture d'Europe 1, a donné une consigne simple à ses équipes, qu'on cesse de chipoter et qu'on l'appelle désormais tout simplement le magnifique. Un surnom qui, c'est vrai, lui va bien, même si d'après certaines mauvaises langues, Mathieu Charrier, le monsieur cinéma d'Europe 1, c'est moins Belmondo dans le magnifique que Michel Serrault dans La Cage aux Folles 2.
C'est vrai? T'avais pas aimé Moonlight? Non, c'est pas justement, vas-y.
Merci chérie. Heureusement, et c'est pour ça qu'on l'aime, Mathieu Charrier, c'est surtout un esprit critique affûté pour le cinéma, mais globalement pour toutes les situations de la vie, comme par exemple le week-end lors d'un enregistrement chez Philippe Vandel.
Ok, allez, on y go d'agneau.
Normalement, c'est gigot d'agneau. Parce que on y go d'agneau, ça perd tout le truc, tu vois.
Et oui, le vice-chef adjoint délégué est impitoyable.
C'est vrai.
Mais
c'est
évidemment vrai. Que c'est vrai. Vous n'êtes pas vice-chef adjoint pour rien.
Je peux pas laisser dire n'importe quoi.
Mathieu Charrier, vous êtes le spécialiste cinéma d'Europe 1. Beaucoup de films sortent aujourd'hui, mais heureusement, vous êtes là pour nous aider à faire le tri. Alors, on commence par La Dernière Folie de Claire Darling.
Oui, dans lequel Chiara Mastroianni joue la fille de Catherine Deneuve. Ça tombe bien, puisqu'elles sont mère et fille dans la vie. Alors, ça commence avec Catherine Deneuve, Claire Darling, dans le film, qui vit dans une belle et grande maison bourgeoise et qui décide sur un coup de tête de vendre tout son mobilier, ses bibelots, ses tableaux, tous ses souvenirs. On met un peu de temps à comprendre qu'en fait, elle est persuadée que c'est sa dernière journée de vie, qu'il faut donc qu'elle se sépare de tout, car ce soir, elle va mourir. Sauf que là-dessus, débarque dans la maison sa fille, Chiara Mastroianni, qui, elle, ne comprend pas très bien ce qui est en train de se passer. Et à partir de là, vont ressortir de vieilles affaires familiales. Ce film, c'est une réflexion sur le temps qui passe, sur nos rapports aux objets, aux souvenirs. Quand vous la voyez vendre tout ce qui lui appartient, franchement, vous êtes mal à l'aise physiquement. Vous avez envie de lui dire arrête, de lui crier arrête. Bref, c'est une belle expérience de cinéma, avec une fin en plus assez c'est réussi, je vous en dirai pas plus, mais c'était pas facile de terminer ce film, mais là, c'est fait avec brio, ça s'appelle La Dernière Folie de Claire Darling, n'hésitez pas, prenez votre ticket.
Alors, deuxième choix de ce mercredi, Mathieu, c'est, alors là, c'est le grand favori des prochains Oscars, c'est La Favorite.
Oui, signé Yorgos Lanthimos, vous savez, c'est ce cinéaste grec, habitué notamment du Festival de Cannes, que moi j'adore, il avait notamment fait The Lobster, vous savez, dans lequel les célibataires se retrouvaient parqués dans un hôtel. C'est 45 jours pour trouver l'âme sœur, sinon ils étaient transformés en animal. Mais de leur choix, quand même.
Et c'est ça qui vous... Il vous faudrait ça, Eva, ouais. Au moins, ça vous mettrait la pression.
Ah, j'aurais déjà été transformé
sinon,
en
un zoo.
Vous auriez choisi quoi comme animal?
Je sais pas.
Réfléchissez, vous nous donnerez la réponse à la fin de la séquence.
Donc là, dans la favorite, il nous plonge dans les coulisses de la couronne anglaise au début du XVIIIe siècle. L'Angleterre est en guerre contre la France, mais à la cour, on préfère s'amuser à base notamment de courses de canards. Il y a deux courtisanes qui se font la guerre pour séduire la reine, qui est jouée par Olivia Colman. Les courtisanes, ce sont Rachel Weisz et Emma Stone, et commence alors un enchaînement de coups bas, de trahison, d'empoisonnement. Ça suinte la jalousie. Ce film, franchement, c'est un film d'une complexité assez malsaine, et en même temps, on est complètement embarqué dans cet univers, que c'est très beau visuellement. La reconstitution de la cour est top. C'est un film qui est nommé 10 fois pour les prochains Oscars. Effectivement, c'est le grand favori. Il sort aujourd'hui en France. Je vous dirais d'aller juste voir la bande-annonce avant d'aller en salle. Il faut adhérer à l'univers. Mais si vous êtes client, foncez.
Merci beaucoup Mathieu Charrier pour ces conseils ciné. On passe aux nouvelles technologies avec vous, Grégoire Martinez, notre expert high-tech. Grégoire, on parle de plus en plus des assistants intelligents, des enceintes connectées, mais elles pourraient bientôt disparaître.
Eh bien oui, parce qu'on pourra désormais, Mathieu, connecter n'importe quelle enceinte. Vous pourrez connecter n'importe quelle enceinte que vous avez chez vous pour la transformer en enceinte connectée. En fait, c'est très simple, ça se fait avec ce petit boîtier que j'ai là dans la main qui fait la taille d'un dessous de verre à peu près. Et grâce
en tout cas, c'est plus grand qu'un stylo Bic.
Pour revenir sur
cette chronique mythique de Grégoire Martinez, où nous avions parlé d'un stylo Bic pendant 3 heures sur la taille de je ne sais plus quoi d'ailleurs.
Vous aviez disserté sur la taille du stylo Bic.
Et est-ce que ce petit objet donne l'heure ou pas?
Alors, il peut donner l'heure. Ah, voilà. Il va pouvoir donner l'heure une fois que vous l'aurez paramétré. Parce que concrètement, ça veut dire que vous allez, avec ce boîtier que vous allez relier à votre enceinte que vous avez déjà chez vous, la connecter. Du coup, ensuite, vous pourrez lui poser des questions, en l'occurrence grâce à l'assistant intelligent d'Amazon, Alexa. Donc, vous pourrez lui demander, Alexa, quelle heure est-il, pour répondre à Eva. Et donc, il est 5h52 et 57 secondes, d'après l'écran qui est devant moi. Vous pourrez lui demander de commander les objets connectés qui sont chez vous. Et en fait, pour que ça marche, ce petit boîtier qui fait la taille d'un dessous de verre, il y a dedans des microphones pour entendre ce que vous dites et le matériel nécessaire pour se connecter à Internet pour que l'enceinte puisse vous donner les réponses.
Mais est-ce que c'est facile à installer ce truc-là ?
Bah, très, en fait, parce que donc, du coup, vous prenez le boîtier, il s'appelle le Echo Input d'Amazon, ça vaut un peu moins de 40 euros. Dans la boîte, vous avez...
On le met où ? Sur l'enceinte ?
Non, où vous voulez, derrière, sur l'enceinte, comme vous voulez. Dedans, il y a dans la boîte, il y a deux câbles, un câble pour le brancher au secteur et l'alimenter normalement, puis un câble jack qui permet là de le brancher à votre enceinte. Les deux câbles sont dedans, vous branchez ça, vous ouvrez l'application Alexa sur votre smartphone, vous rentrez le code du Wi-Fi de chez vous, et ça y est, c'est prêt à fonctionner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon est le premier à proposer ce type de produit qui permet de connecter une enceinte qui existe déjà.
C'est plus simple, ça évite de se rééquiper en enceinte.
Ça permet d'avoir le son qu'on a envie d'avoir chez soi, parce que pour les enceintes, il y a quand même une vraie question de qualité du son. Et surtout, c'est assez peu cher, parce que ça coûte quand même que 39 euros.
Une fois de plus, je sens que Mathieu Charrier n'est pas convaincu. Ou alors, il se fout simplement de ma gueule.
Non, je me foutais un peu de vous. C'est toujours des réflexions très logiques, finalement.
C'est vrai, oui, mais c'est le bon sens, Mathieu. C'est le bon sens suisse, ça, Mathieu Charrier.
Non, c'est très bien ce petit boîtier.
C'est validé par Mathieu Charrier. À mon avis, oui, Amazon, l'action d'Amazon, suivez l'action d'Amazon,
ça
risque de monter.
Justement, je me disais, je voulais pas changer toutes mes enceintes, mes machins, mes trucs, ça c'est pratique.
Oui, c'est bien, Mathieu Charrier.
Je vais vous en offrir un, le petit boîtier.
Attention, le cynisme a ses limites, Mathieu Charrier. Eva Rock.
Poupées russes sur Netflix, c'est la nouvelle série, alors qui n'a strictement rien à voir avec...
Ah, c'est pas Les Poupées Russes ?
Mais non, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Aucun rapport avec Les Poupées Russes, le film de Cédric...
Je suis la candeur, on savait.
Aucun rapport avec le film de Cédric Clapiche, mais ça pourrait vous faire penser à Un jour sans fin avec Bill Murray. Ah. Poupées Russes, c'est l'histoire de Nadia Vulvokov, c'est un peu difficile à prononcer. C'est sa soirée anniversaire, à l'issue de laquelle... Vous m'écoutez ou pas ?
Excusez-moi, j'ai fréquenté pas mal de Russes, mais jamais de Vulvokov. À part dans certains films, un petit peu.
Bon, est-ce que j'y vais ou pas ?
Allez-y.
C'est sa soirée anniversaire. Écoutez bien, à l'issue de laquelle elle va mourir. Renversée par un taxi. Alors, criez pas, je viens pas de vous dévoiler la fin de la série, parce que Nadia, elle va ressusciter, et elle va se retrouver exactement dans la même position que dans la première scène de la série. Et puis elle va mourir, remourir, remourir encore.
Mais c'est le film aussi avec Tom Cruise, là.
Et oui, exactement.
Hein, vous avez aimé cette précision cinématographique, Mathieu Charrier,
pointu. Mais retrouvez le titre, parce que je m'en souviens plus.
Je vais le dire maintenant, parce que, en fait, je suis affligé.
Oui.
Oui, mais vous ne trouvez pas le film non plus. Donc
mais avec Sam Cruise, ça vous intéresse que je vous raconte ou pas ?
Continuez, je vais trouver le film en attendant.
Bon, enfin, elle meurt, elle remeurt, rien n'y fait, elle se retrouve exactement dans la même pièce, dans les toilettes en l'occurrence.
Bon anniversaire, baby !
Qu'est-ce que j'étais en train de faire ?
Quoi ?
De quoi tu parles ?
Je me casse d'ici.
Putain.
Bon anniversaire, baby !
Y'a quoi là-dedans ?
Plus personne ne bouge, je vais descendre ces escaliers !
Oh non, ça fait chier, c'est carrément glauque.
Bon, alors tu te décides à me dire ce qui se passe.
J'arrête pas de mourir et de revivre toujours la même soirée.
Alors, comment expliquer cette situation ? Trop de drogue, maison montée, comment sortir de cet enfer ? C'est une comédie noire, Poupées Russes, qui est très réussie. À chaque épisode, son lot de rebondissements. Et avec un exercice très particulier pour le spectateur que nous sommes. Parce que Toutes les scènes se réitèrent indéfiniment, mais les détails sont modifiés au gré de l'évolution du personnage qui est incarné par l'excellente Natasha Lyonne, une héroïne très sexe, drogue and rock'n'roll, qui est obligée de fouiller un peu dans son passé pour comprendre la situation, c'est à voir sur Netflix. C'est assez drôle, mais c'est beaucoup humour noir quand même. Hein.
Et donc le ressort de cette journée qui se répète, donc,
oui,
a été déjà
avec Tom Cruise, c'était dans...
Et c'était effectivement...
Voilà.
Mathieu Charrier, quand même pas Monsieur Cinéma pour rien, l'a retrouvé, Edge of Tomorrow,
il a trouvé
en 2014.
Oui. C'est Alexa qui me l'a donné.
C'est Alexa.
Merci. Ça vous a donné envie, Populus?
Ah, ça m'a donné extrêmement envie, bon. Eva. Bah, comme
surtout
vous
vu le Vokov.
Voilà. Je vous en prie, Mathieu Charrier. Merci, Eva Rock. Merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera demain, les amis. Mathieu, alors vraiment, vous êtes sûr hein, pour le film La Favorite, ça vaut vraiment le coup?
Vas-y.
J'irai.
Europe 1. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kallmann.
En février, la French Touch Renault a tous les talents.
Ah, ce joueur, quel meneur de jeu! Il lève la tête, un petit coup d'œil et hop, la bonne décision!
Et attends, Scénic avec l'affichage tête haute, c'est pareil. Je conduis et hop, toutes les informations sont dans mon champ de vision. Ça aide, hein?
Quant à sa reprise plus 4000 euros...
Ah oui, magnifique cette reprise!
Renault reprend votre voiture 4000 euros en plus de sa valeur pour l'achat d'un Scénic neuf. French Touch touche française. Offre valable jusqu'au 28 février sur toute la gamme Scénic. Voir Renault.fr.
Il est 5h57, Mathieu Noël.
L'heure de la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. Douceur au programme.
Oui, la hausse des températures continue cet après-midi avec une moyenne de 9 à 12 degrés sur la moitié nord. Il en fera 10 à Paris et de 12 à 16 degrés sur la moitié sud. On attend même 18 degrés à Perpignan. En attendant, on se couvre ce matin avec encore des gelées dans l'est. On a moins 5 degrés à Nancy, moins 4 à Besançon, moins 3 à Mulhouse ainsi qu'à Lyon. Pour les autres, la moyenne va de 1 à 7 degrés dans les terres, 8 à 13 degrés près des côtes. Il en fait 11 à Bordeaux, Brest et Biarritz, 13 déjà à Perpignan.
Côté ciel, c'est de la pluie près de la Manche.
Oui, de faibles averses et du vent de la pointe bretonne au Pas-de-Calais pour ce matin. Elles vont se renforcer avec une nouvelle perturbation qui va arriver en fin de matinée par le Finistère qui apportera des pluies régulières et même soutenues entre la Bretagne et le Cotentin dans l'après-midi. Pour les autres, un ciel couvert entre le Poitou-Charentes, la Gironde, la région centre, l'Île-de-France et puis en montant vers les Ardennes avec des bruines possibles. Partout ailleurs, sur l'extrême sud, une frange est, le ciel va rester plutôt clément avec des éclaircies. Grand soleil même encore près de la Méditerranée. Et puis attention ce matin aux brouillards qui sont nombreux sur l'ouest du pays, brouillards qui peuvent être givrants, notamment dans la vallée de la Saône en Bourgogne.
Merci Céline.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.